dans le père Philippe à Saint-Jean-d'Arc le 1er septembre 1988, 12e conférence.
Question. Donc, par rapport à ce matin, est-ce que le choix de l'ami ne diminue pas sa liberté de se donner à d'autres amis? Alors là, on entre dans quelque chose qui serait très intéressant, du reste, à bien préciser. Nous avons, nous, une conception un petit peu idéaliste. On trouve constamment, du reste. Je dirais qu'elle est à l'attent. Toute détermination nous semble être quelque chose qui vient nous limiter. Au plan philosophique, essayons de comprendre la différence entre détermination et limitation. C'est une confusion qui s'est faite avec l'idéalisme. Leibniz, c'est très cool, c'est très net. Mais c'est avant. Alors, je voudrais avec vous préciser au plan philosophique ce que représente la détermination et comment une détermination jamais ne nous limite, mais nous ouvre d'autres déterminations. Aimer quelqu'un ne nous empêche pas d'aimer d'autres. Au contraire. Plus on aime, plus on est capable d'aimer. Alors, la détermination au plan philosophique. C'est la spécification, le terme tout à fait propre. Une puissance, une faculté de puissance, mettons l'intelligence. L'intelligence est spécifiée et déterminée par son objet. Par son objet propre. Tandis qu'au contraire, la limitation relève de la cause matérielle. C'est la matière qui limite. Et la détermination et la spécification par l'objet, c'est la cause formelle. Alors évidemment, oui, il faudrait regarder au point de vue philosophique toute la différence entre le point de vue de la cause matérielle et la cause formelle. L'âme et le corps. La matière, toujours, elle limite ce qui est reçu dans la matière. La matière contracte, c'est le problème de la causalité matérielle. La causalité matérielle est une causalité potentielle. Alors elle contracte, elle limite. Et c'est très curieux qu'avec l'idéalisme, la distinction entre la cause matérielle et la cause formelle, tu vois, une certaine forme d'idéalisme, je ne dis pas tous, vont se confondre. Il y en aura toujours l'impression. Alors il faudrait se demander si au point de vue psychologique, l'impression que ce qui vient nous déterminer nous limite. Oui, on retrouve ça très nettement au plan chrétien. Le dogme est considéré comme une limitation. Alors, c'est vrai que des pensées trop dogmatiques, hein, la place d'ouvrir les mythes. Vous voyez ? Mais c'est le dogmatisme qui fait ça. Toutes choses bonnes peuvent être vécues d'une façon mauvaise. Parce que la détermination et la spécification, normalement, ça ennoblit. C'est qualitatif. La cause formelle est toujours du côté qualitatif. Donc ça ennoblit. Et parce que ça ennoblit, ça permet d'aller plus loin. Mais c'est vrai qu'il peut se faire ce qu'on appellera le formalisme. Il est vrai qu'il peut se faire que quelqu'un use mal de la causalité formelle et l'accapare. Et alors à ce moment-là, la détermination, à la place d'ennoblir, vient limiter. C'est-à-dire que psychologiquement, ce serait très intéressant à étudier au niveau psychologique, ça. Mais qu'est-ce qu'on appelle le formalisme dans la vie religieuse, puisque on a des exemples ici, n'est-ce pas ? On est dedans. Donc prenons l'exemple. On pourrait le reprendre partout. Un règlement de vie peut être vécu comme quelque chose qui nous limite. Ah, je m'excuse, je ne peux pas faire ça. Ce que me disait quelquefois Jean Vanier, qui s'occupe souvent des handicapés, il disait, c'est pas toujours commode de travailler avec des religieuses. Je m'excuse pour les religieuses. C'est pas toujours commode de travailler avec des religieuses parce que, ah oui, dès l'heure, l'office. Et le malade. Vous allez le quitter à cause de l'office. Votre finalité, point de vue de la miséricorde, est-ce que c'est le malade ou est-ce que c'est l'office? Oui, on voit très bien. Alors j'ai essayé de défendre la vie religieuse auprès de Jean Vanier en lui disant, mais peut-être qu'après elle reviendra et elle travaillera d'une façon beaucoup plus belle, beaucoup plus intense, parce qu'elle aura été priée. La prière nous prend du temps sur la présence miséricordieuse. Mais si la prière recharge les accus, on revient avec un potentiel bien plus grand que quelqu'un qui est toujours présent mais qui est fatigué. Ah, il y a une petite lampe, la petite lampe de nuit, pas très forte, qui vacille un peu parce qu'on n'a pas été rechargé les accus. Alors voyez, toute la question, c'est de bien comprendre que ce qui détermine normalement, ce qui nous détermine, nous conduit vers notre fin. La spécification, la détermination doit nous permettre d'être plus capables d'atteindre notre fin et donc d'aimer plus. Tandis que lorsque je formalise, je tombe dans le pharisaïsme. Les pharisiens ont des qualités, mais le savent trop. Et il y a des clôtures et il y a des murs de clôture. Il y a des clôtures qui montrent des zones de silence et il y a des murs qui font que, oui, on est devant le mur. Enfin, ça, c'est le formalisme. Ça empêche d'atteindre la fin. Mais normalement, la détermination n'est pas la limitation. La limitation relève de la cause matérielle. Bon, j'applique ça. C'est une petite distinction, une petite clé. Il faut toujours arriver, dans toute analyse philosophique, à distinguer les quatre causes. Évidemment, si on fait ça, on en aura pour toute l'heure. et ce ne sera pas commode. Mais c'est capital. Vous voyez, c'est les interrogations. On interroge. C'est une chose magnifique pour travailler un problème. Quand on connaît bien ce qu'on représente, les diverses interrogations, et quand on connaît bien ce que représente ce maniement de l'intelligence, parce que c'est pas quelque chose d'abstrait, les quatre causes. Ça relève de notre connaissance intellectuelle qui mendie son bien à travers les cinq sens. Nous sommes une intelligence qui avance par l'expérience. Le toucher me donne le sens de la matière. L'œil me donne le sens de la détermination. Il y a des gens qui sont visionnaires. Puis il y a des gens qui sont très, très... les pieds par terre. Hein. Plancher des vaches. Puis il y a l'ouïe. L'ouïe, le sens de l'autre qui me parle, qui me conduit, qui me dirige. L'odorat, la finalité. Très curieux, ça. Le goût, c'est le goût, hein. C'est bien. Ça, c'est... Et c'est très important d'aborder un sujet, non pas d'une seule manière. Mais pour petite église romane, si vous la regardez uniquement d'une seule façon, ça, c'est très bien. Mais il y a d'autres façons de la regarder. Et vous viendrez prendre celui qui est fixé sur cette unique façon. Venez regarder ça. Puis on lui montre un autre point de vue. Ce sont nos points de vue. Notre intelligence est liée à la main. Notre intelligence est liée à l'œil. Notre intelligence est liée à l'ouïe. Notre intelligence est liée à l'odorat. Notre intelligence est liée au goût. C'est comme ça que vous avez cinq causalités. C'est la structure de votre intelligence en fonction de votre conditionnement. Et ça, vous le retrouverez tout le temps. Et c'est très important de comprendre que lorsqu'il s'agit d'analyser philosophiquement, vous avez cinq avenues. Hein, tout le temps. Jamais oublier ça. Il faut arriver petit à petit, c'est là la souplesse de la vie d'intelligence. Vous avez cinq avenues pour saisir la réalité que vous cherchez. Cinq points de vue. Causalité matérielle. Causalité finale. Causalité formelle. Causalité efficiente. Causalité exemplaire. Elle n'existe pas tout le temps. Et quand vous arrivez à faire ça, il ne faut pas le faire d'une façon, vous voyez, univoque. Il faut le faire d'une façon très souple. Et c'est très intéressant. Alors, vous voyez, vous allez voir tout de suite l'application. Est-ce que le choix de l'ami ne diminue pas sa liberté? Quand je choisis un ami, je me détermine, causalité formelle, je me détermine et je me finalise. L'ami est mon bien. C'est mon bien. Choisir un bien ne me limite pas. Au contraire, choisir un bien m'ennoblit et me permet d'aller plus loin. Je ne dis pas que l'ami est un tremplin pour découvrir un autre ami. Ce serait très mauvais. Parce qu'alors, j'utiliserai l'ami. Vous voyez ? Et je serai toujours, n'est-ce pas, à avoir une attitude de celui qui louche. Un œil sur l'ami, puis l'autre œil sur tous ceux qui passent. Alors, ce ne serait pas bien du tout. L'ami exige le don total du cœur. Il me finalise. Mais le cœur de l'homme désire aller toujours plus loin. Non pas du tout pour relativiser, mais pour, grâce à la vie, aimer d'autres amis. C'est très vrai. Les amis, nos amis sont nos amis. C'est pas toujours vrai. Hein? Pas toujours vrai. Et on voit ça très fort dans le mariage. On était très amis du jeune homme qui s'est marié. Puis, il se marie, évidemment, il doit adopter les choix de l'épouse. Autrement, il ne serait pas un véritable ami. Et l'épouse, pour des quantités de raisons, ne peut pas vous sentir. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ou bien qu'il faut l'inverse. Hein. On voit ça constamment quand on vit avec des jeunes. Et on reçoit alors les doléances. J'étais son ami depuis qu'il est marié, voilà, 2 ans que je ne le vois plus, je ne l'ai pas vu. Il n'a fait aucun signe. Alors que moi, je continue de l'aimer. Je dis, oui, mais vous n'êtes pas marié. Ah, vous voyez ? Donc, le choix de l'ami vient limiter. C'est pas toujours vrai, ça. Il y a l'inverse aussi. C'est que grâce à l'ami, il y a un nouvel horizon. Et que il peut se faire que l'ami peut très bien, ça peut exister, ça, pour des quantités de raisons. C'était toujours intéressant, tu restes, regarder les raisons. Il faut faire attention, mais c'est curieux, vous voyez. Alors, j'analyse ça au plan philosophique. Normalement, aimer quelqu'un, c'est augmenter notre capacité d'amour et donc notre capacité de vivre. Notre capital de vivre, si j'ose dire, en comprenant bien, spirituel. Notre capital de vivre augmente. Aimer quelqu'un, c'est extraordinaire. Choisir quelqu'un comme ami, bien, mais il peut se faire en raison d'un certain conditionnement. Et je souligne, en raison d'un certain conditionnement de temps, de lieu. Il peut se faire que l'ami que j'ai choisi, des tas de raisons, dise à l'ami non. Si tu veux bien, je crois qu'il vaut mieux pas le voir. Ça ne te fait pas de bien. Le pauvre ami l'encaisse, il n'entend pas ce qu'il dit. Correction fraternelle. Ça ne te fait pas de bien. Non, non. Tu vois bien. Chaque fois que tu le vois, c'est autre chose. On voit très bien ces choses-là. La perspicacité. Quand on aime beaucoup quelqu'un, on lui pardonne tout. Quelqu'un qui est l'ami de quelqu'un n'a pas du tout la même connaturalité et va avoir une perspicacité toute différente. Mais alors, ce n'est pas en raison de l'amour, c'est en raison de certaines circonstances et en raison de la cause matérielle. Parce que les circonstances se prennent du côté de la cause matérielle. C'est que cet ami qu'on exclut ne fait pas du bien. Il oriente vers autre chose. Et on peut voir ça. Vous regardez des quantités d'exemples. Hein. Facile à comprendre. Ce que ici je veux vous montrer, c'est que l'ami comme tel ne diminue jamais l'horizon, la capacité d'aimer. Au contraire. Mais accidentellement, en raison de certaines circonstances, il peut se faire que psychologiquement, ça donne l'impression de venir vous limiter. Donc distinguons bien, le choix amical ne limite pas ma capacité d'aimer. Le choix amical à l'égard d'un ami augmente ma capacité d'aimer. Est-ce que ça actue ma capacité d'aimer? Et quand ma capacité d'aimer est plus actuée, je suis plus capable encore d'aimer. Alors ici, c'est des questions, je ne peux pas les traiter maintenant, parce que vous voyez, un moine peut-il être artiste? Ou précisément le rester? Hein? Je comprends très bien, je comprends très bien. Si parmi vous, il y en a qui ont la vocation d'artiste et qui sont artistes, et qui ont le désir d'entrer dans la communauté Saint-Jean, qui viennent me voir. C'est une question particulière et personnelle. Il n'y a pas de principe là-dessus. Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Frangelico est un grand artiste. Et Frangelico est un saint. Un saint religieux. Il y a toujours eu des artistes chez les moines, heureusement, pour permettre que l'horizon monastique demeure plus spirituel. Toujours eu. C'est comme, vous savez, c'est la même chose pour la philosophie. Un moine peut-il être philosophe? Je dis oui. Heureusement. Et je crois que la vie monastique devrait favoriser un certain sens poétique, un certain sens artistique. Mais alors, on ne l'est pas tout à fait de la même façon. Voilà. On ne l'est pas tout à fait de la même façon. Ça, c'est sûr. Oui, et même au plan philosophique, c'est la même chose. On ne peut pas être philosophe comme Sartre. Alors, si vous identifiez philosophie et Sartre, ça, je dis, la vie monastique empêche. Mais si vous comprenez que Sartre n'est pas la cause exemplaire du philosophe, et que Sartre est un type de philosophie possible dans notre monde d'aujourd'hui, il aurait été impossible au Moyen-Âge. Vous vous posez la question, est-ce que Sartre est un vrai philosophe? Est-ce qu'il a une vision de l'homme qui est juste? Puisque c'est ça le vrai philosophe. Quand une philosophie mutile l'homme, c'est une philosophie qui n'est pas bonne. Et c'est toujours par rapport à l'homme. Une philosophie n'est vraie que dans la mesure où elle respecte toutes les dimensions de l'homme. En les ordonnant, en les harmonisant. C'est l'homme qui est la mesure de la philosophie. C'est pas la philosophie qui est la mesure de l'homme. Mais c'est l'homme. Oui, quand on dit le réel, c'est pas suffisant. C'est l'homme existant. Et ça, c'est très important. C'est ça que je vous ai déjà dit, par exemple, quand vous voyez un marxiste, et que vous pouvez savoir que ce marxiste est père de famille, vous allez tout de suite, progressivement, dans le dialogue, lui parler de ses enfants. Vous allez le voir que ça va le déranger énormément en tant que marxiste. Puis au bout d'un certain temps, j'ai fait l'expérience, plus d'une fois. Vous lui dites, mais alors, votre marxisme, vous dites que c'est votre philosophie, c'est terrible. Elle ne vous dit rien sur l'amour. Une philosophie qui ne dit rien sur l'amour, pour moi, c'est une philosophie qui n'est pas une philosophie. Le philosophe doit regarder l'homme dans sa capacité d'aimer. Une philosophie qui ne nous dit rien sur l'art n'est pas une vraie philosophie. Parce que l'art est une vraie dimension de l'homme. Et ainsi de suite, vous voyez. Toutes les dimensions de l'homme. C'est en ça qu'une philosophie est nécessairement une anthropologie. Mais alors vous avez des anthropologies fermées et des anthropologies ouvertes. Je ne dis pas qu'elle est ouverte à la vie monastique, ça c'est différent. Pourriez-vous nous dire comment se mêle en l'artiste le « je veux, je suis, je dois », fameuse distinction de Kant, hein, être libre, je veux être libre, je suis libre, je dois. Comment dans l'artiste? Bon, l'artiste, qu'est-ce qu'il veut en premier lieu? Il veut être artiste. Il ne veut pas être libre. C'est pas ça qu'il cherche en premier lieu. Mais en tant qu'il est artiste, il devient libre. Vous voyez, vous faites de la liberté un absolu. Je vous ai dit que la liberté n'est pas un absolu. L'acte libre. L'artiste ne cherche pas à être libre. Ah, il cherche à être libre quand il a été empoisonné par un voisin. Vous voyez ? Alors il se libère, c'est autre chose, il se libère de ce voisin. Oui, mais à cause de cet empoisonnement. Vous voyez, du matin au soir, un artiste, il est à côté de quelqu'un qui a une télévision puissante et qui tout le temps, hein, les airs les plus imbéciles, les plus idiots. Et il est musicien. Comment voulez-vous? Non, il perdra la tête. Elle dira peut-être à ce moment-là, la liberté, vite. Bon, pourquoi? Parce qu'il veut chasser le voisin. Et c'est pas ça, comme artiste. En premier lieu, il cherche à pouvoir réaliser son œuvre. Et comme quelqu'un l'empêche, il veut supprimer cet empêchement. Donc il cherche à être libre pour être artiste. Donc il ne dira pas « je veux, je suis, je dois ». Non, complètement en dehors. Il veut être artiste, c'est tout. Et en étant artiste, il deviendra de plus en plus libre. Et par le fait même, il essaiera de choisir un lieu où sa liberté sera plus grande. Alors je continue ce que nous avions vu. L'artiste, il y a un acte libre de l'artiste, un acte libre de l'ami. De nombreux actes libres de l'ami. Un acte libre du prudent. Ah ! Regardons l'acte libre du prudent. C'est tout à fait autre chose. Puis nous ferons la petite synthèse après. Hein. C'est pour ça que je vais aller assez vite. Un acte libre prudent. L'homme prudent est libre. L'homme prudent doit être libre pour exercer sa prudence. C'est sûr. Vous pourrez dire très bien, dans tel cas, je n'ai pas pu choisir tel moyen, j'étais pas libre. Et vous vous excusez. Il y avait un empêchement dans ma vie. J'étais obligé de soigner ma vieille maman. On m'avait dit que ça durait 1 an, ça durait 10 ans. Ça arrive, ça. Et ça durait 10 ans. Donc pendant 10 ans, ma prudence ne pouvait pas s'exercer avec une liberté totale. J'étais obligé. Et constamment, je prends cet exemple-là, prenez quantité d'autres exemples. Quand vous tombez malade, j'avais un projet merveilleux, puis juste avant les vacances, catastrophe, un accident de voiture. En partant en voyage, vous voyez, en partant en vacances, toutes les vacances
arrêtées.
Donc, j'avais projeté ça depuis 6 mois en homme prudent. Et soudainement, je ne peux pas réaliser ça. Mais donc, je ne suis pas libre pour être prudent, là. J'étais obligé d'entrer à l'hôpital. Et je n'avais aucune envie. Passer mes vacances 15 jours à l'hôpital. Drôle de vacances. Comme horizon, c'est tout ce qu'il faut. Alors, l'homme prudent. L'homme prudent, qu'est-ce que c'est? C'est l'homme qui est orienté vers une fin. Et qui prend les moyens en vue de cette fin. Voilà, la prudence. La prudence, c'est de peser la valeur des moyens en vue de la fin qu'il faut acquérir. Alors, reprenons l'exemple de l'ami qui est en recherche d'amitié, qui est déjà en amitié, mais en recherche d'amitié. Puis on regardera après la prudence pour maintenir l'amitié et faire grand. L'homme prudent qui est en recherche d'amitié. Alors je dis, au-delà du prudent, il y a l'homme ami. Ou l'homme qui désire être ami, qui recherche. Qui recherche l'amitié. De telle personne. Alors, il essaiera de prendre les moyens les plus adaptés à ça. Si t'es un petit peu malin, il sera très bien. Vite découvert, par exemple, la personne qu'il aimait telle ou telle chose. Alors, il saura s'il est suffisamment soufflé, intelligent et suffisamment aimant de prendre les moyens qui lui permettent de s'approcher le plus possible. Et si la personne qu'il aime a des amis, il essaiera de voir ses amis. Ce sera des moyens de s'approcher. Mais il choisit des moyens. Ça, je crois que c'est facile à comprendre. Hein. Parce que des actes prudents, quand même, on en fait un petit peu. Et la prudence existe un tout petit peu dès qu'on est finalisé. C'est-à-dire dès qu'on cherche un bien, puisque la fin, c'est un bien. Un bien spirituel, qui est une personne qu'on désire aimer. On l'aime, puisqu'on est attiré vers. Donc il y a un amour. Il n'y a pas de prudence. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de prudence. Toute prudence présuppose un amour. L'amour à l'égard d'une fin. Et on recherche les moyens pour acquérir cette fin. Vous voyez, les moyens sont relatifs, jamais absolus, sauf quand il n'y en a plus qu'un. J'avais 36 possibilités de partir en voyage, puis tout à la dernière minute s'arrête. Il n'y a plus qu'un seul moyen, prendre le chemin de fer, et puis les engrèves. Non, c'est pas trop bien, on est obligé d'attendre. Tous les moyens sont évacués. Partir à pied. On se dit que c'est un moyen impossible. Donc on attend. Il faut 8 jours pour trouver le moyen. L'homme prudent cherche les moyens. Et les moyens les plus adaptés à la fin. Ou les moyens les plus proches de nous. Il y a 2 manières d'être prudent. Ça, c'est très intéressant. À détecter. Il y a 2 manières d'être prudent. Ceux qui, tout de suite, choisissent les moyens les plus adaptés à la fin qu'on recherche. Et l'homme prudent, qui cherche les moyens qui sont le plus adaptés à lui. Vous voyez, généreux recherche le moyen adapté à la fin. L'homme moins généreux, pour ne pas dire autre chose, l'homme moins généreux regarde les moyens les plus adaptés à lui. Ce qui est le plus commode, ce qui est le mieux, le meilleur coussin. Mais un gâteau dans le banquet, les meilleurs coussins. Il aime les coussins, connaissez-vous. Et s'il y a un moyen sans coussin, non, non. En prenant symboliquement le coussin. Donc, là, ce qui est parfaitement adapté à nous, ce qui est doux, ce qui n'exige pas d'effort. Alors qu'il y a des hommes prudents qui, au contraire, prendront des moyens plus proches de la fin et qui ont un grand effort. Voyez où joue la liberté. Il y a presque toujours un moyen plus adapté à la fin qu'on cherche. Un autre moyen plus adapté à ce que nous sommes. Et nous sommes libres de choisir. Il y a le choix du moyen. Et ce choix du moyen se fait par la prudence. Je suis de petite santé. Donc n'ayons pas des yeux plus grands que notre estomac. Parce qu'après je suis malade, ça n'ira pas. Je suis de petite santé, je dois faire attention. Oh, je voudrais bien prendre ce moyen. Je ne peux pas. Je sais que je galerai au milieu. J'ai fait l'expérience. Vous voyez, c'est très très important ce point de vue-là. La lucidité dans la prudence. Et la lucidité dans la prudence fait que le moyen, tel moyen, se présente à moi comme je peux le choisir ou pas le choisir. Donc comme libre. Si je ne suis pas lucide du tout, je me précipiterai. Je me précipiterai tout de suite. Sans réfléchir. La prudence demande la délibération. La prudence demande un peu de recul. La prudence demande la réflexion. La prudence demande l'information. Vous avez choisi sans aucune information. Et c'est ce qui dira tout de suite spontanément quelqu'un qui est un tout petit peu compétent. Dire, écoutez, vous avez choisi sans demander conseil à des gens bien plus compétents que vous. Et vous avez pris ça. Vous avez pris le moyen, le plus difficile qu'il soit et le plus bête qu'il soit. Ça arrive, il y a des gens qui choisissent comme ça. Dans leur pratique, s'ils avaient demandé conseil, tout à fait différent. Alors voyez, où vit la liberté dans la prudence. C'est la lucidité à l'égard des moyens. Il faut être très lucide. Quelqu'un de trop passionné précipite. Il se précipite. Vous savez, l'animal traqué, il se précipite. Et le lièvre, le soir, pris dans les feux de l'auto. C'est un très bel exemple pour la prudence. Si la fontaine était de notre temps, la fontaine ferait une fable dessus. Celui qui est en auto avec ses deux chevaux, et puis le petit lièvre qui est là, parce qu'il y a des applications constantes. Hein. Vous voyez, l'homme passionné, c'est comme ça. Il est pris entre les deux phares. C'est plus la droite, la gauche. Vous avez certains qui sont fous complètement. Et là, quand il est fou complètement, il n'a qu'une seule solution, c'est de se précipiter en dessous des roues. Juste l'inverse de la prudence. Il a manqué de lucidité. Pas le lièvre, mais nous. Vous voyez, où gît la liberté de l'homme prudent, la lucidité, pour juger de la valeur exacte des moyens. Alors à ce moment-là, il voit la relativité de chaque moyen. Et voyant la relativité de chacun des moyens, le pour et le contre, leur valeur propre, il peut choisir. une conscience lucide. Donc, voyez, pour qu'il y ait choix, il faut que le moyen soit relatif à une fin. Et il faut cette lucidité. Quand je dis que le moyen est relatif, ça veut dire que ce moyen qui est un bien utile. Il n'est pas une fin. Tous les moyens sont relatifs. Ils sont donc utiles. Tous les moyens sont relatifs, sont utiles. Ils sont dans la catégorie de l'utile. Il faut donc connaître que ce bien est relatif. Qu'il est relatif ayant telle valeur. Alors à ce moment-là, je peux choisir absolument librement. Vous voyez qu'ici, la connaissance joue un rôle très important. Et je crois que c'est ici où on pourra comprendre ce que les théologiens appellent le libre arbitre. Au fond, le libre arbitre, il est toujours ce qui qualifie la prudence. La prudence possède ce libre arbitre. Je peux choisir ce moyen, je peux très bien choisir un autre. Je le sais. Je sais qu'en choisissant ce moyen, je m'engage dans tel sens. En choisissant tel autre moyen, je m'engage autrement. Vous voyez, il y a là quelque chose de très curieux. Il y a l'équilibre entre l'amour et la lucidité. Il faut aimer une fin. Il faut évaluer la valeur des moyens. Il faut être très lucide sur l'aspect passionnel à l'égard de ces moyens. Parce que si je suis trop passionné, je n'aurai plus de liberté. L'alcoolique n'a pas de liberté quand il voit une bouteille. Il arbitre tout de suite. Et s'y précipite. Parce que sa délibération, tu vois, c'est connu. Il y a le syllogisme de l'ivrogne. Très intéressant de reconnaître les syllogismes. Parce que vous voyez que dans des quantités d'articles de journaux, les gens raisonnent comme le syllogisme de l'ivrogne. Si j'étais critique, je releverais ça. C'est très très intéressant. Vous voyez, ils sont passionnés pour une cause et voient tout à travers ça, exactement comme l'ivrogne. L'ivrogne dit, le médecin m'a prescrit de ne pas prendre d'alcool. Je vois cette bouteille. Non, c'est pas pour moi. Ça, c'est un syllogisme sain, conforme à ce que le médecin a dit. Mais ça, c'est le syllogisme à froid. Mais quand l'alcoolique, qui sait, hein, il a l'ordonnance du médecin sur lui, surtout ne prenez plus d'alcool, là c'est très très mauvais pour vous. Vous risquez tant d'histoires. Il voit une bouteille. Il l'a jamais vue. Parce que c'est toujours individuel. Donc, il l'a jamais vue. Elle le vint une couleur. Oh là 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 là. C'est extraordinaire. Alors, il dira, oui, je sais que je ne dois pas prendre d'alcool. Mais cette bouteille, elle est unique. Pour une fois. Oui, alors c'est toujours per modum actus. Pour une fois, je regarde cette bouteille, je me laisse prendre, donc je bois. Il y a quatre pieds. Alors qu'en vrai, c'est légiste, il n'y en a que trois. Il y en a quatre. Et le quatrième, c'est toujours l'admiration, la séduction devant la bouteille. Devant cette séduction, toute ordonnance dégringole. Il est séduit par la passion. Alors, ça fait que ce qu'il fait, la décision qu'il prend, n'est plus une décision humaine. C'est une décision passionnée. C'est pas très humain. Il n'a plus beaucoup de responsabilités. Et on pourra montrer qu'il n'est pas très responsable. parce que, que voulez-vous, il est dans telles conditions que l'alcool joue un rôle sur lui extraordinaire. Alors que sur un homme normal, ça ne joue pas du tout la même séduction. Vous voyez, la prudence, c'est complexe, hein, la liberté de la prudence. Mais c'est le choix. Un choix qui réclame intelligence et amour. Et c'est un choix où l'intelligence et l'amour vont toujours être en harmonie. Pour qu'il y ait une lucidité toujours plus grande et un amour toujours plus grand. Donc c'est un type de liberté qui est la liberté de choix qui se fonde sur un amour et une connaissance. Et plus l'amour est fort, l'amour de la finalité, et plus la connaissance est lucide, plus la liberté sera grande. C'est sûr, plus la liberté est grande. Mais souvent c'est très mélangé. Il y a la passion qui joue. Et la passion diminue. C'est le fameux exemple qu'on donne tout le temps. Des gens qui trouvent qu'ils ont déjà assez bu, dans un bon repas, on leur offre. Alors ils mettent la main sur le verre, puis instinctivement, au bout d'un instant, les doigts s'ouvrent. Vous voyez, ça montre exactement la passion. Symboliquement, vous voyez, c'est symbolique ça. Ça montre que on est décidé, oui, on est décidé, mais la passion vient. Et alors à ce moment-là, la lucidité disparaît. Donc il n'y a plus beaucoup de liberté. L'obéissance de l'acte libre, ah, ça, oui, l'acte d'obéissance est-il un acte libre ? Très très important aujourd'hui. Alors, je dis tout de suite, hein, c'est très difficile dans notre monde aujourd'hui d'obéir. On ne sait plus ce que c'est que l'obéissance. Vous voyez, il y a ce fameux donné qu'on verra tout à l'heure au point de vue politique, cette fameuse dialectique du maître et de l'esclave. L'esclave subit le maître. Quand vous subissez, vous n'obéissez pas. Le maître est tyrannique. Et vous obéissez par crainte. Par peur. Vous obéissez parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes pris dans la secte. L'obéissance de la secte. Dans une secte, on est pris. C'est plus de l'obéissance, hein. On est esclave. Alors que si vous regardez le maître, il a toutes les sources possibles. Ça peut être le patron, ça peut être le père, ça peut être celui qui enseigne, et ainsi de suite. Le maître et le disciple. Je prends exprès. Le maître oriente, il peut donner même des ordres. Le disciple qui veut être disciple reçoit l'ordre et veut coopérer. Pour qu'il y ait obéissance, il faut qu'il y ait coopération entre celui qui commande et celui qui obéit. Et plus la coopération sera forte, plus l'obéissance sera vraie. C'est capital de comprendre ça. Autrement dit, quand il y a coopération entre le maître et le disciple, il y a la même fin. le maître et le disciple coopèrent à la même œuvre. Et quand ils coopèrent à la même œuvre, vous pourriez mettre patron et le salarié et l'ouvrier. Quand ils coopèrent à la même œuvre et qu'ils ont le même amour vis-à-vis de cette œuvre à faire, ils coopèrent dans l'obéissance, en ce sens qu'il y en a un qui a commandé et l'autre qui obéit, qui exécute. Mais ils font la même œuvre. Donc il n'y a plus de rivalité. Tandis qu'au contraire, quand l'esclave est tyrannisé, il ne fait pas la même œuvre que son maître. Il travaille pour le maître. Hein ? Ils ne travaillent pas ensemble pour une même œuvre. Tout est là, vous savez. Quand on a compris ça, on voit très bien la différence entre le maître et l'esclave chez Hegel dans la philosophie hegelienne. Il y a une rivalité entre les deux, une rivalité et une opposition. Plus le maître, j'allais dire, s'impose, plus l'esclave est écrasé, et donc plus il est esclave. Et plus le maître est maître, plus l'esclave s'oppose au maître. Et arrive un moment critique où l'esclave se sépare, se révolte, d'où révolution. C'est toute la dialectique hegelienne, ça, que Marx a repris. Alors que vous avez la même proposition chez Aristote, entre le maître et le disciple, entre le patron et l'ouvrier, en disant l'un et l'autre doivent coopérer. Il y a alors à ce moment-là, parce qu'il y a coopération, il y a obéissance. Toute obéissance, tout acte d'obéissance implique une coopération. Une novice entre avec des chaînes hegeliens sans le savoir. Prends que tout acte de commandement de la maîtresse de novice, oh c'est tyrannique, bon, faut bien obliger quand même, hein, qu'elle ne charrie pas trop, parce que ça va pas, ça fait une opposition et l'opposition peut grandir. Donc, mauvaise humeur, murmure, tout ça. Donc, division, révolte. Révolte cachée, murmure. Révolte ouverte, on prend des pistolets. C'est ça. Mais, du murmure au pistolet, vous savez, ça va assez vite aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui. Ça va assez vite. Et c'est la différence entre les deux. Donc je situe bien, l'obéissance implique une coopération. Qu'est-ce que c'est qu'obéir ? C'est reconnaître l'autorité de quelqu'un, une autorité compétente, en sachant que cette autorité est à mon service pour me permettre d'aller plus vite, d'aller plus loin. Si l'autorité n'était pas là, je serai réduit à ma propre vision qui ne va pas très loin. Tandis que quand j'ai une autorité compétente, j'ai quelqu'un qui sait, qui a de l'expérience, auquel j'ai confiance. Là, je fais des progrès énormes. Mais il faut la confiance, il faut la coopération. Si je comprends l'obéissance de cette manière, c'est très grand. L'obéissance m'agrandit. Puisque ça me permet d'avoir la même intention que le maître, que mon patron. La même intention. Évidemment, quand vous exposez ça dans certains syndicats, ils ont de la peine à comprendre. Hein? Et pourtant, il faut le dire. Alors, vous voyez, il y a une distinction capitale derrière. La distinction entre autorité et pouvoir. Le pouvoir peut tyranniser, l'autorité demande la coopération. C'est vrai, il y a des gens qui ont une autorité naturelle. Le père de famille, il a une autorité sur ses enfants. Celui qui enseigne, il a une autorité. S'il est compétent. Celui qui organise, ben il a une autorité, s'il est compétent. Un incompétent perd son autorité. Même s'il est très bon, même s'il pleure, il perd son autorité. Il y a une compétence qui est nécessaire. Et en même temps, le sens de la finalité. Il y a les deux. Compétence et sens de l'autorité. Et compétence et sens de la finalité. La finalité du bien commun. De son bien et du bien de l'autre. D'un bien commun qui peut être proportionnel, mais qui est quand même un bien commun. Qui a des modalités différentes. Tandis que le pouvoir, c'est tout à fait différent. Un gendarme a-t-il autorité ou pouvoir? Le démon a-t-il autorité ou pouvoir? Le démon n'a aucune autorité. Il a un grand pouvoir. Ça, c'est au point de vue chrétien. Au point de vue de la foi. C'est intéressant. Je vois très bien. Le gendarme, il a une certaine autorité, mais s'il n'avait pas de pouvoir, son autorité serait très faible. Vous avez peur du gendarme en fonction de son pouvoir. Il peut vous donner une amende de temps. Et plus l'amende est grande, plus son pouvoir est fort, plus vous avez peur de son autorité. Je vous affirme, c'est du jour au lendemain. Les gendarmes n'avaient plus aucun pouvoir. Ça irait très bien. Aucune attention à son autorité. Donc ça irait très mal, si vous voulez, au point de vue de l'ordre. Ça irait très bien pour l'individu, au point de vue de l'ordre du bien commun, beaucoup moins bien. C'est très important de faire cette distinction. Parce que, vous voyez, je ne coopère pas au sens absolu au pouvoir pur. Je coopère à l'autorité qui est dans celui qui a le pouvoir. C'est une petite distinction qui est très importante. Je me souviens, je donne ça à titre de renseignement. Il y a quelques années, enfin, vous savez, déjà un petit bout de temps, on m'avait demandé de faire une conférence sur l'autorité. Je n'avais pas eu le temps de préparer, ça peut arriver. Hein. On sait bien ce que c'est que l'autorité, mais je n'avais jamais fait un cours sur l'autorité. Donc je n'avais jamais étudié. Alors je me précipite sur le dictionnaire de théologie catholique. Les dictionnaires, c'est fait pour ça. Hein. C'est pour les paresseux et puis ceux qui n'ont pas eu le temps de préparer. Alors je me précipite, je cherche article autorité. À mon grand désespoir, rien. Le dictionnaire de théologie catholique. Ah, je me dis, oh, ça doit être un pouvoir. Pouvoir, tout. Alors je me suis dit, mais quoi? Ils confondent autorité et pouvoir. À partir de quel moment s'est fait cette confusion? En théologie, et donc en philosophie. Alors j'ai décelé, et je crois que c'est vraiment à partir de ça, à partir de notre chère Occam, confusion. Et comme toujours, on ne sait pas pourquoi, les confusions se communiquent beaucoup plus que les vérités. Je ne sais pas pourquoi. Autrement dit, les ornières demeurent plus longtemps dans les routes que lorsqu'on a remis le nivellement. Curieuse, hein ? Les ornières. On dégringole. Les confusions. Donc, alors ici, je reviens. L'acte d'obéissance, vous voyez bien, implique une liberté. Je suis libre d'accepter cette autorité ou de ne pas l'accepter. Tandis que je ne suis pas libre à l'égard de tel pouvoir. Un pouvoir tyrannique s'impose à moi. Je ne peux pas. L'autorité n'est jamais tyrannique. C'est un service. Je suis à votre service. Je suis là pour vous aider. L'autorité est toujours un service. J'accepte ou j'accepte pas. Mais si j'accepte, je coopère. Tandis qu'au contraire, le pouvoir est tyrannique et s'impose. Donc voyez, comme c'est important pour découvrir comment l'acte de puissance est un acte libre. S'il n'était pas un acte libre, il ne serait plus un acte d'obéissance. J'obéis librement à la loi, en tant que la loi autorité. Une bonne loi est toujours liée à l'autorité, parce que c'est l'autorité qui peut légiférer, l'autorité politique. Et il y a des lois qui sont injustes, et qui ne sont plus liés à l'autorité, ils sont liés à un pouvoir. Quand vous payez vos impôts, remarquez que c'est un acte d'obéissance, hein. Quand vous payez vos impôts, êtes-vous libre ? Que ceux qui sont libres en payant leurs impôts se mettent à droite, et que ceux qui ne sont pas libres se mettent à gauche.